skinfluencer. Ah oui, c'est les. Pour moi, ça me fait penser aux escrocs sur Insta. Où c'est les mecs qui donnent des conseils en gestion de patrimoine alors qu'ils le sont pas vraiment. C'est aussi ça le truc.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui fini le gay savoir et les analyses sociologiques alambiquées. Bienvenue dans Zoom Zoom Zen, l'émission qui en trois étapes simples et en moins d'une heure fera de vous un rentier. Qu'est-ce que j'apprends? Tu as un bac plus 4 et tu trimes dans un bureau 5 jours sur 7 pour même pas 5K par mois? Tu veux rester un loser toute ta vie ou bien tu veux rejoindre les winners, ceux qui ont sauté dans le train de la hype et qui foncent à toute allure vers des rendements à 7%? Aujourd'hui avec Zoom Zoom Zen, découvre comment avec un simple investissement en loi Pinel et quelques placements judicieux dans les crypto-monnaies, tu peux en 3 mois devenir aussi riche que le tonton milliardaire de Quentin lui. Il suffit d'écouter notre tuto et à toi la grosse moula, le yachting en Sardaigne l'été, le ski à Megève l'hiver et surtout...
la bouilla.
Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va zoomer sur ce nouveau type d'influenceurs qui pullulent sur les réseaux, les fines influenceurs. Des influenceurs finance qui vous promettent de vous enrichir rapidement en oubliant souvent de vous annoncer les risques en perte de capital et qui oublient plus souvent encore de clarifier leurs liens avec les organismes qu'ils vous conseillent. Bref, qui sont les fines influenceurs? Y a-t-il de bons fines influenceurs et de mauvais fines influenceurs? Ne tombez plus jamais dans le panneau, n'écoutez plus les bonimenteurs dont certains n'ont aucune expérience dans la finance, restez prudents, mais investissez dans l'Ether via mon appli CryptoMax. Gratuite le premier mois, puis 7,99€ par mois, la première transaction est offerte. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Bonjour Anne-Claire Benveau.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anne-Claire, vous êtes experte de l'innovation financière et du numérique. Vous avez fondé le cabinet de conseil BNVLT dédié aux marques historiques et aux startups du secteur financier. Dans ce cadre, vous avez aussi créé la plateforme SPAC, S-P-A-K, qui développe des programmes de sensibilisation et des contenus pédagogiques pour favoriser une meilleure éducation financière. On est donc au cœur de notre sujet sur les influenceurs financiers. Pourquoi ça cartonne? Pourquoi il faut se méfier? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux investisseurs à très gros potentiel. Ils ont en tout cas le goût du risque. Comme Quentin l'a encore prouvé jeudi dernier devant son conseiller clientèle Crédit Agricole, qui l'incitait pourtant à rester prudent, mais...
Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution.
Oui.
J'ai choisi, ça y est.
Il a choisi.
Voilà. Offensive.
Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour
tout
à tous.
Face à vous, Anne-Claire, vous ne risquez pas de l'avoir comme client, sachant que votre créneau, c'est l'innovation financière. C'est pas vraiment son truc. Si en 2025, certains ont du mal à passer aux cryptos, lui, son enjeu, c'est plutôt de passer à la carte bleue. Déjà, ça serait déjà un premier pas vers la modernité pour ce garçon qui ne joue encore que par le cash et ne quitte jamais son petit portefeuille. Vous pouvez d'ailleurs l'agiter peut-être devant la caméra pour prouver que tout ce que je dis est vrai. Quentin, chaque après-midi.
5 euros.
Avec au moins.
Ah oui, non,
il reste plus grand chose là.
Du moment.
C'est très triste ce moment où vous sortez un petit billet là. J'avais écrit 500 euros.
Oui, les impôts.
Les impôts sont passés par là, pauvre vieux là. Alors, on en pense quoi dans la rue des fines influenceurs?
Moi, j'aime avoir la liberté de ne pas être tracé. Vous vous faites anesthésier par le système, pas moi. Alors, dans la rue.
Je ne contracte pas. Vous me faites peur parfois, Quentin.
Non, pas à ce point-là. Dans la rue, qu'est-ce que vous pensez des fines influenceurs? Je l'ai fait à l'américaine, parce que ça se dit un peu comme ça sur les réseaux. Cyril se disant bourré d'acteur en chef, a simplement oublié de me dire qu'il avait francisé en cours de route. Donc ce sera fine influenceur pour moi. À cœur vaillant, rien d'impossible.
Oui, on parle de la même chose.
Hein. Oui, voilà, c'est ça.
Ne t'inquiétez pas. À vos côtés, Anne-Claire, journaliste, n'est qu'une des facettes de son activité professionnelle, puisqu'elle est en passe de se reconvertir en sportfluenceuse. Ses followers ne s'y trompent pas quand ils sont en quête de dépassement, qu'ils ont envie d'un modèle inspirant qui les aide à repousser leurs limites. Ils savent qu'ils peuvent compter sur Manon, qui jamais ne louperait une séance de pilates pour boire un coup en terrasse. Sauf évidemment quand il fait beau, comme mardi soir.
Ça va.
Manon, chaque après-midi, avant
c'était
le pilates.
C'était une fois.
C'était une fois.
Oui,
par contre, deux verres.
Oui, bon, ça va.
Vous nous brossez le portrait de l'autre personne à suivre, Manon.
Oui, et cet après-midi, une influenceuse financière qui s'est fait un nom grâce aux conseils qu'elle prodigue aux femmes. Car prendre le contrôle de son argent, c'est aussi un acte féministe.
Vers 16h30, si je vous dis que j'adore les panda bonds et qu'il faut se méfier du rebond du chat mort, vous penserez peut-être qu'il faut surtout que j'arrête de goûter ce que mon auteur Gérald Darnaud me propose de goûter tous les jours, une petite ligne. Eh bien non, car dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte des expressions les plus rigolotes et souvent animalières, vous verrez, de la finance. Juste avant 17h, un drôle d'animal, là aussi, le décapant GC, formule qui marche moyennement car elle fait penser à décapant WC, nous rejoindra pour un moment certainement absolument désopilant. Après 17h, attention, tout le monde au garde à vous. puisqu'on recevra le nouveau président de l'ARCOM, Martin Ajdari, le copain de Cyril Lacarrière, qui pourra peut-être, et ça sera une première, nous sanctionner en direct. Mais d'abord, donc nos fines influenceurs, Anne-Claire Benveau, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement de voir que des sujets financiers intéressent autant sur Internet, ou au contraire, c'est dangereux?
Alors oui, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont appropriés les réseaux sociaux pour parler de ce sujet qui était quand même assez tabou, de sujets financiers qu'on abordait difficilement même en famille. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'amateurisme et aussi des arnaques qui traînent sur les réseaux sociaux, donc il faut faire attention.
Alors, vous avez tout nous expliqué, mais globalement, c'est facile de repérer un fin influenceur qui a vraiment des connaissances et qui va nous aider à faire quelque chose, ou des charlatans. Il doit y en avoir beaucoup. Il doit y avoir plus de charlatans que de professionnels.
Il y en a beaucoup. L'aveu même de l'AMF envie de la mer à la petite cuillère, donc c'est vraiment pas simple. Maintenant, comment les reconnaître? En général, ceux qui sont les plus honnêtes, pardon, j'ai un chat dans la gorge, les plus honnêtes d'entre eux, ils vont vous dire clairement s'ils sont sponsorisés ou pas par une marque financière. Voilà, donc ça, ils doivent vous le dire. Ils doivent vous rappeler aussi les bonnes pratiques, donc être prudent dans vos investissements, mettre en place une épargne de précaution, donc il y a 2-3 règles évidemment à respecter. Et puis aussi, rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Voilà, oui. Parce que ça, c'est très important aussi de le dire.
Lui, il n'a pas le cœur à parler finances. Deux jours que Nicole Croisi, qui avait écrit « Être une femme en pensant à lui », nous a quittés. Et le bureau de Cyril Lacarrière est encore humide de ses larmes. À moins que ce ne soit pas ses larmes, mais juste la réactivation de Pornhub. Bref, c'est un homme tourmenté.
Peut-être le bureau de Dominique Seux, parce qu'on va raconter la même chose le matin.
Oui, Mathieu, cet après-midi, on est sur du recyclage de blagues.
Ça s'appelle franchisé.
Ça, on est d'accord, c'est déduit sur les droits d'auteur, ces trucs-là.
Absolument pas.
Parce que c'est scandaleux.
Absolument pas quand Charles Aznavour a composé La Bohème, par exemple. Et qu'elle repasse sur Nostalgie tous les jours. C'est absolument les mêmes droits d'auteur qui tombent. Et vous pouvez comparer la qualité de cette vanne avec les paroles de La Bohème et vous verrez qu'on est à peu près sur du kiff-kiff.
Vous êtes un escroc.
Cyril Lacarrière, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci pour cet accueil. Et racontez-nous, vous qui restez fidèle au CICAV, hein, vous êtes plutôt père tranquille.
Ah, ça, moi,
tranquille,
j'adore.
Côté finance.
Les
fines influenceurs, d'où ça sort?
Eh bien, c'est à la fin des années 2010 que le terme a commencé à émerger, d'abord aux États-Unis. Là-bas, on les appelle les finfluenceurs, contraction, finance, influenceurs. Chez nous, on a rajouté un in, donc ça donne fininfluenceur, mais ça veut dire la même chose. Miracle des internets, grâce à ces fininfluenceurs, l'économie est devenue un sujet cool et intéressant. Terminé le conseiller bancaire, austère, à la Gérald Darnaud, place à des jeunes en jean et t-shirt et des vidéos postées sur TikTok, YouTube ou Instagram pour nous expliquer comment investir en bourse, épargner et devenir rentier en trois étapes. La crise sanitaire de 2020 va servir de coup d'accélérateur à ces influenceurs de nouveau genre. L'économie mondiale vacille, les jeunes veulent prendre le contrôle de leur argent. Tout le monde parle de crypto-monnaie sans rien y comprendre. Une voie royale pour les fines influenceurs.
Et ça ne va pas s'en faire de dégâts.
Eh bien non, forcément, pour la bonne et simple raison que ces conseillers bancaires 2.0 sont souvent des autodidactes et parfois des gens qui n'y connaissent absolument rien à la finance. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des gens qui perdent toute leur économies à cause d'une vidéo YouTube. D'ailleurs, ici en France, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, va elle-même alerter sur ces risques. Elle s'est dite préoccupée par l'accroissement du nombre de ces créateurs de contenu qui vantent des placements à haut risque, sans aucune formation et surtout sans aucune transparence sur leur partenariat avec certaines boîtes dont ils vendent les produits. Alors, pourquoi cet engouement pour les placements financiers? Faut-il se féliciter de l'émergence de ces jeunes qui parlent d'économie? Quels sont les risques? Comment réguler cette activité? Mon cher Mathieu Noël, c'est ce dont on va parler durant une heure.
Merci Cyril. Anne-Claire Benveau, Cyril nous parlait de la crise sanitaire de 2020 qui aurait donné un coup de boost aux influenceurs financiers sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Oui, c'est très juste. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tous beaucoup de temps devant nos ordinateurs et l'épargne disponible à ce moment-là. Et donc, pas mal de plateformes de crypto et de ce qu'on appelle les néo-brokers ou des courtiers en ligne sont venus à communiquer assez massivement sur Internet et sur les réseaux sociaux pour attirer des nouveaux investisseurs. Donc ça a profité en fait beaucoup de cette croissance.
Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement ne s'est pas arrêté depuis. On est resté, la mode des fines influenceurs était née et elle reste aujourd'hui.
C'est vrai, en fait, bon, déjà il y a eu un phénomène de pédagogie quelque part grâce à cette période. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça a amené pas mal d'entre nous à se questionner sur notre épargne, nos investissements et c'est plutôt positif. Maintenant, vous l'avez rappelé, le danger c'est qu'il y a à boire à manger sur ces réseaux sociaux et il y a aussi beaucoup d'arnaques et c'est très compliqué compliqué de faire le tri.
Qu'est-ce qui doit nous alerter vous devez repérer une arnaque du premier coup d'œil. Qu'est-ce qui doit nous alerter en premier?
Ouais, alors les grosses ficelles, c'est les placements avec rendement garanti, avec des taux absolument dingues.
Ça n'existe pas.
Voilà, ça n'existe pas. Et ça, il faut fuir absolument. Tout ce qui vous propose aussi de rentrer en contact direct, en direct message, et avec des formations payantes, des choses un peu exotiques comme ça, méfiez-vous. Et puis dans le lot des arnaques, on voit aussi énormément émerger des arnaques aux fonds conseillers. Donc là, c'est carrément des conseillers qui vont vous appeler, se faisant passer pour votre conseiller bancaire.
Ah, pour votre conseiller bancaire.
Voilà, en vous proposant de réagir face à une arnaque, justement, et de trouver des solutions pour vous. Donc évidemment, vous paniquez, vous répondez à votre conseiller qui est évidemment très sérieux et qui vous amène à faire des choses qui sont absolument pas OK.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Quand on a un doute, quand notre conseiller bancaire nous appelle, il ne doit pas nous demander notre numéro de quoi que ce soit.
Exactement. Donc déjà, votre conseiller bancaire, il ne doit pas vous appeler. Normalement, il n'a pas besoin de vous appeler. Maintenant, très souvent, ça se passe par l'application financière, etc. Donc si jamais votre conseiller vous appelle et en plus vous dit qu'il y a une urgence avec votre compte, vous raccrochez et vous le rappelez.
Voilà.
Et en général, il ne vous a pas appelé et il n'y avait pas de problème. Donc vraiment, méfiez-vous de tout ça.
Leur profil, c'est plutôt des jeunes gens, des
arnaqueurs?
Oui.
Les arnaqueurs, je ne saurais pas à vous dire, je pense qu'il y a un peu de tout, mais effectivement, on voit dans l'écosystème financier que de toute façon, c'est plutôt 70% masculin. Donc que ce soit du côté des arnaqueurs ou même des investisseurs, on est plutôt sur un monde assez masculin aujourd'hui.
Mathieu Noël sur France Inter.
Oui, vous écoutez Zoom Zoom Zen et profitez, parce que quand je serai rentier, c'est-à-dire à peu près dans 6 mois, selon la chaîne YouTube de Ben Lamalice, crypto-fluenceur dont je suis les tutos, eh bien il n'y aura plus de Zoom Zoom Zen, il y aura la mire. Plus sérieusement, on zoom aujourd'hui, il y aura la mire en radio, ça sera une sacrée première. On zoom aujourd'hui sur ces fin influenceurs, on ne sait plus comment les appeler, vu que Cyril les appelle d'une certaine manière, Quentin d'une autre, on est perdu.
Comment vous les appelez-vous?
Les fin influenceurs.
Les fin influenceurs. Les finfluencers, mais j'arriverai pas
Quentin
à le dire.
Quentin avait raison, du coup.
Comme souvent, effectivement. Ils nous font miroiter des placements mirobolants. Anne-Claire Benveau, experte de l'innovation financière et du numérique, est avec nous. Vous avez dévoilé récemment un chiffre incroyable. 35% des 18-24 ans ont déjà subi une arnaque financière. Il y a plusieurs choses. Déjà, on imagine souvent que les arnaques financières sont les personnes plutôt âgées qui les subissent. Pas du tout. Les jeunes sont la cible, en fait.
Oui, les jeunes sont la cible et aussi les non-initiés et les moins fortunés d'entre nous. En fait, il y a un phénomène de machine à laver. Très souvent, les arnaqueurs vont s'adresser à des gens qui sont moins initiés, donc moins informés, moins prudents, ou en nécessité financière plus importante, et donc tenter de répondre plus favorablement à des sollicitations.
Il y avait un créneau à prendre, peut-être d'argent facile. On est dans une époque où on fantasme un peu l'argent facile. Est-ce qu'eux se sont mis dans cette brèche-là, sous couvert de pas de tabou en France, on peut parler d'argent, mais par contre, on peut faire de l'argent facile?
Ouais, c'est vrai. Sociologiquement, on le voit, il y a un côté thunosphère, on appelle ça comme ça. C'est la tentation de l'argent facile, l'influenceur qui gagne beaucoup d'argent et qui fait exemple en se montrant à Dubaï au bord de sa piscine. On a envie de gagner beaucoup de sous comme lui, quoi.
On a besoin de savoir qui sont les fines influenceurs, les vrais, ceux qui apportent des vrais conseils. Qui sont-ils?
Alors, disons qu'il y a beaucoup de monde sur le sujet. Ce qu'il faut regarder, c'est ceux qui ont l'autorisation d'exercer quelque part, de donner des conseils en matière de finance. Donc pour ça, vous avez des diplômes ou des accréditations, et notamment un conseiller en investissement financier, c'est quelqu'un qui a passé des examens et qui a le droit de donner des conseils. Donc déjà, vous pouvez vérifier si l'influenceur dispose de cette autorisation et de cette compétence, effectivement. Alors bon, il y a un peu une zone de flou, parce que dans les influenceurs financiers, il y a des gens, je dirais, sérieux quand même, mais qui ne disposent pas de cet agrément, mais qui sont pour autant sérieux et éthiques dans ce qu'ils proposent.
Est-ce que leur but, c'est de prendre la place des conseillers financiers, ces fines influenceurs?
Alors, je dirais qu'ils ont rempli un vide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs historiques du marché de la finance, de la banque et du courtage qui étaient présents de manière efficace jusqu'à ces 5 dernières années sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ils sont pris d'un sujet qui était finalement pas traité. Et puis, il y a aussi de l'opportunisme chez certains influenceurs. On parle de créateurs de contenu, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Et donc, ces créateurs de contenu, leur business model, pour parler en bon français, c'est de gagner de l'argent parce qu'ils font de l'audience avec avec ces contenus. Donc il y a quand même un sujet de vérification de la source, de qui parle, pourquoi et à qui ces acteurs-là sont adossés. Quoi.
Est-ce qu'il y a des fines influenceurs de confiance que vous pouvez nous conseiller si je ne comprends rien au monde de la finance, je veux pas des conseils, je veux juste m'informer quels sont les fines influenceurs que je peux suivre.
Alors déjà, on a parlé de crypto tout à l'heure, il y a un influenceur qui est intéressant qui s'appelle Asher. Qui parle très sérieusement de ce sujet-là. Alors il n'est pas tout blanc non plus, il a reconnu d'avoir fait certaines erreurs et avoir été associé à des plateformes de crypto qui n'étaient pas toujours très sérieuses par le passé, mais c'est plutôt une bonne référence sur le sujet des cryptos.
Est-ce que les banques pourraient se mettre à faire appel à des fines influenceurs?
Oui, alors certains le font déjà. En fait, il y a des acteurs financiers qui ont bien compris l'intérêt d'aller parler à des audiences plus jeunes sur les réseaux sociaux. Et en fait, bon, c'est une question que je pose souvent, mais on suit rarement sa banque sur un réseau social.
Oui, c'est pas très sexy
ni très amusant. En tout cas, pas autant que Zoom Zoom Zen. Donc, on va plutôt aller chercher des comptes de personnes qui parlent, qui incarnent un peu le sujet, qui en parlent de manière décalée. Du coup, les banques et les acteurs financiers se rapprochent de certains influenceurs pour travailler avec eux sur ces sujets.
Les banques pourraient faire du contenu, je sais pas, on pourrait imaginer mettre en scène les conseillers bancaires pour faire du conseil.
Ça vous fait rire,
non, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, il y a des conseillers financiers qui maintenant, et des conseillers en gestion patrimoniale qu'on appelle les CGP, qui maintenant se mettent aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient cette mauvaise concurrence parfois d'influenceurs financiers pas très sérieux. Donc ils y viennent, ils se forment aussi à ces usages-là et à ces pratiques-là. Et effectivement, les banques aussi, et c'est un peu mon rôle et notre travail chez SPAC, que d'accompagner les acteurs du secteur financier à créer et dans la création de contenus pertinents et un peu différenciés et sympas sur les réseaux sociaux pour parler de finance et d'économie autrement parce qu'elles ont besoin d'être présentes assez et au rendez-vous sur ces emplacements-là.
Un nez qui flaire, un cœur qui bat, une décision qui tombe.
Je choisis la solution offensive.
Quand on voit l'agressivité financière dont il peut faire preuve en agence, imaginez sur le net. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre phénomène du jour. Et comme vous êtes parfaitement bilingue, vous savez déjà dans Zoom Zoom.
Extremely large telescope, par exemple.
Mais maintenant, c'est la phrase que vous dites le mieux.
Je dis que ça.
Vous le dites bien. Vous avez opté pour la version anglaise du mot, les finfluencers.
Oui, je vous présente ma première rencontre du jour. Julien, qui a la quarantaine, je dirais, avec sa mallette en cuir, sa veste de costume, il me confie qu'il est diplomate pour les Nations Unies.
Les finfluenceurs. Finfluenceurs ? Finfluenceurs. Leur credo rend la finance sexy et accessible, surtout en vidéo TikTok de 30 secondes.
Pourquoi, d'après lui, ce créneau est-il si porteur aujourd'hui ?
Parce que historiquement, traditionnellement, la finance, c'est un peu un monde conservateur déjà. Donc je pense qu'il y a une volonté un peu de se désolidariser de ce côté un peu conservateur de la finance et puis de la rendre, comme nous dit le texte, un peu plus sexy. Ça a beaucoup changé. Ma génération, je vous disais tout à l'heure, j'ai 48 ans, on était à l'école, on envisageait un métier et puis on se disait, voilà, il y a une route à suivre. Et maintenant, les jeunes, ils vont vous dire, je peux faire de l'argent assez facilement, rapidement, pourquoi pas ? Bah, là où pour moi, où mes parents, ils me tannaient, comme beaucoup d'amis ou de gens de ma génération, pour assurer un minimum et puis surtout se dire, qu'est-ce que tu vas faire après tes études ?
De l'argent.
C'est tabou l'argent en France, attention.
En France, l'argent c'est tabou, comme l'opacité qui entoure le cachet quotidien de Mathieu Noël, présent de 7h55 à 18h sur France Inter. Hugo, lui, a la vingtaine, il veut faire de l'argent, il est en finance, que pense-t-il des...
Finfluenceurs. Pour moi, ça me fait penser aux escrocs sur Insta, où c'est les mecs qui donnent des conseils en gestion de patrimoine alors qu'ils le sont pas vraiment, c'est aussi ça.
Est-ce que t'es un finfluenceur toi ?
Pas du tout. Moi, je travaille en finance, mais j'ai pas la prétention de m'y connaître plus qu'un gestionnaire de patrimoine. Je pense que c'est un métier à part. Il y a trop de gens qui s'improvisent finfluenceurs, justement. Je trouve pas que ça soit une bonne chose.
Il me dit qu'il regarde quand même les vidéos que son algorithme lui propose, même si un truc l'agace.
On a beaucoup de gens qui mentent sur leur background, qui te disent « Oui, moi j'ai travaillé pour telle banque, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et au final, en 2-3 recherches, on se rend compte que c'est complètement faux. Alors j'ai en tête un finfluenceur qui donne des conseils pour les étudiants sur leur carrière aussi, enfin en règle générale, qui dit avoir bossé chez Goldman, au final on se rend compte qu'il a fait un stage de 6 mois, rien de plus quoi. Donc il nous en parle comme s'il avait 30 ans de carrière derrière lui quoi.
Et ça, on lui a fait pas à Hugo. Ma prochaine rencontre me voit débarquer dans sa rue avec le micro France Inter. Elle veut bien participer mais me prévient qu'elle a un accent. Bonjour quand même.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Stéphanie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis dans les télécoms et tech.
Vous venez d'où ?
Des États-Unis. Les finfluencers.
Ah là, on peut mettre l'accent. Les films.
Les finfluencers. D'accord, qui parlent de l'argent sur les réseaux sociaux.
L'épargne, la bourse.
Oui, très bien.
Et les cryptos.
Oui, super. Moi, je suis à l'écoute.
Ah, elle est à l'écoute. Je lui parle de la méfiance des Français sur ce genre de sujet.
En fait, parce que c'est un sujet tabou, vous voulez dire, c'est ça?
Plus qu'aux États-Unis, vous trouvez?
Absolument, absolument. Mais il faut écouter ceux qui sont gagnants, non? Ceux qui savent faire beaucoup d'argent quand même, non?
Parfois, on écoute tellement ceux qui veulent faire beaucoup d'argent qu'ils deviennent président de la République. Mais, président tout court,
oui,
d'ailleurs.
Président tout court, plutôt.
Mais c'est vrai que la mentalité est quand même différente ici en France. Je change de trottoir. Voici ce jeune, grand, chemise impeccable, pantalon de costume bleu, le dernier casque audio Apple vissé sur la tête.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Jean.
Jean, c'est quoi votre métier?
Je travaille dans la finance.
Ah, petit coup de bol, il sourit en voyant le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Ah, les finfluencers, du coup. Ok. Donc je pense qu'il y a du positif, dire aux Français d'investir leur épargne, très bien, et notamment aux jeunes, parce que plus on commence tôt, mieux c'est. Mais il y a aussi du négatif, parce que certains produits sont juste mensongers et particulièrement dangereux. Bah, je pense à la crypto. À la crypto, il y a énormément de gens qui ont perdu beaucoup d'argent.
Alors je lui demande si finalement le mieux, ce n'est pas d'en rester quand même à son conseiller bancaire.
Moi, par exemple, j'utilise très peu mon conseiller bancaire. Parce que c'est avant tout un vendeur. C'est un vendeur qui veut vous vendre des produits. Et j'ai eu l'exemple où j'ai aidé ma sœur il y a quelques mois parce que son conseiller lui conseillait deux types de produits. Et quand j'ai demandé les contrats et lu les petites lignes, je me suis rendu compte que c'était pas intéressant du tout. C'était très intéressant pour le conseiller bancaire et pour sa banque, mais beaucoup moins pour le client qui était donc ma sœur.
Avant de le laisser filer pour sa journée dans la finance, je lui demande un conseil finance accessible à tous.
Il faut toujours avoir 6 à 12 mois de sécurité en termes d'économie. Donc estimez combien vous dépensez tous les mois si vous vous serrez la ceinture. Multipliez ce chiffre par 6. Et si vous pouvez avoir ça sur votre compte, sur votre livret A par exemple, c'est très bien. C'est un fonds de sécurité. Mais tout ce qui est en surplus de ça, si vous avez la chance de pouvoir épargner en plus de ça, il faut vraiment l'investir dans ce qu'on appelle un ETF, le S&P 500 ou du marché français, le CAC 40 par exemple. Laissez votre argent là pour 10, 20, 30, 40 ans. Il y aura des chutes, mais ça remontera toujours. Et à horizon 20, 30, 40 ans, je ne me fais aucun souci pour votre épargne qui va fructifier bien mieux que sur un simple livret A.
Et voilà, en deux minutes, Jean est devenu finfluenceur sur France Inter.
Incroyable.
Pas de filtre Instagram, pas de faux diplôme et juste un sourire dans la rue et un bon sens bancaire. Mais moi, je reste persuadé d'une chose. Parfois, le meilleur conseil financier, c'est de ne pas trop en donner.
Pour quelqu'un qui a 20 euros en cash dans son portefeuille,
5 euros
en cash dans son portefeuille et après impôt, à qui il reste 5 euros après impôt, je ne sais pas si vous êtes de bons conseils, Quentin. Anne-Claire Benveau, vous en pensez quoi de ce conseil de Jean? D'abord, on se met 6 mois, 1 an de côté, puis on investit dans les ETF.
Alors, c'est un bon conseil que d'épargner et de préparer une épargne de précaution. Maintenant, 6 mois, 1 an, c'est beaucoup. Et je pense que la plupart des Français, malheureusement, ne peuvent pas forcément mettre cette somme de côté.
C'est quoi les ETF?
Alors, c'est Exchange Traded Fund, donc c'est un produit d'investissement qui permet d'investir en finance et qui s'est développé de manière très très active ces dernières années, justement après la pandémie. Il y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur ce marché-là et qui ont été très forts en marketing sur les ETF. Et c'est plutôt un produit effectivement intéressant pour investir et épargner. Et ce qu'il disait, c'est Jean, dans son commentaire, effectivement, quand on investit, il ne faut pas forcément regarder ça comme le nez sur le feu. L'idée, c'est quand même d'investir avec une stratégie, un horizon.
Dans le long terme.
En effet, penser au long terme et pas forcément paniquer s'il y a des effets de montagne russe sur les marchés. Voilà. Maintenant, le bon conseil, c'est aussi de diversifier. Donc surtout, pas tous ses œufs dans le même panier. C'est le bon conseil de grand-mère, mais qui vaut encore. Et regarder les ETF, les actions, l'assurance vie. Enfin, il y a plein de choses à faire.
En début d'émission, vous disiez qu'en France, parler d'argent, c'était tabou, mais on me l'a dit aussi dans la rue. Vous pensez que la nouvelle génération, les ados qui arrivent, sont plus à l'aise dans le fait de parler d'argent?
Oui, clairement, il y a un sujet qui est en train de sauter parce que justement les réseaux sociaux participent à rendre ça beaucoup plus ouvert, ludique, populaire. Et même dans l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, vous savez, c'est comment ça se passe pour vous sur votre application financière, votre application bancaire. Bah, c'est beaucoup plus ludique, c'est un peu gamifié, donc forcément ça rend le sujet plus accessible. Maintenant, ça fait aussi partie des recommandations de l'OCDE qui est l'organisme qui sur soi sur le sujet de l'éducation financière et qui du coup a dans ses recommandations pour aider justement les Français et l'ensemble de la population mondiale à être mieux éduqués financièrement que d'avoir des programmes ludiques et accessibles.
Manon. J'ai l'impression quand même que la finance, vous m'en parliez un peu hors antenne, est un univers assez masculin et que la finfluence, enfin moi quand je le vois un peu sur les réseaux, c'est quand même quelque chose aussi adopté par les courants masculinistes.
Alors c'est clairement très masculin, la finance en général c'est très masculin, on est à 70% de représentation je dirais pour les influenceurs financiers, peut-être même un peu plus chez les messieurs. Masculiniste, je sais pas le dire. Enfin, j'ai pas de données précises pour l'évoquer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les femmes, on est très en retard en matière de culture financière. On a 10 points d'écart avec les messieurs sur nos connaissances financières. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rattrape. Bon, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour ça, notamment des femmes qui s'investissent sur la cause et qui font de l'influence financière aussi. Et puis, il faut qu'on s'y mette parce qu'on sait que quand les femmes investissent, elles sont plus prudentes et elles ont des résultats aussi bons, voire meilleurs que les messieurs. Donc, il n'y a pas de raison d'hésiter.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
La finance passionne de plus en plus de Français, même Manon commence à se renseigner. Il faut dire qu'elle commence à avoir un peu d'argent. Personne dans l'open space n'a oublié sa réaction hier quand elle a enfin validé sa déclaration de revenus. Jouons pas pour vraiment, prolonger le plaisir au Zoom Zoom Test. Avec une seule question aujourd'hui, Manon Quentin, qu'allez-vous faire de toute cette thune que vous avez engrangée en 2025 maintenant que l'émission est passée à 2h? Votre épargne va-t-elle végéter sur un malheureux livret A ou allez-vous choisir la formule offensive? Pour vous guider dans la jungle des produits financiers, voici un quiz en forme d'ABC cédeur rieur de la finance mondialisée. Ici, pas de recommandations douteuses comme celle du fin influenceur orné Quentin Groguin, qui, le visage camouflé derrière le filtre Snapchat Petit Chaton, explique à sa commu comment acheter une voiture en liquide, acheter un appartement sans passer par un notaire. Sa vidéo qui marche le plus étant 10 méthodes pour échapper à un contrôle fiscal. La troisième va vous étonner. La troisième étant bien évidemment de dénoncer son voisin riche. Mais rien de tout ça ici. Faites très attention, Quentin. Nous jetterons un voile pudique sur le business de celui qu'on appelle le Madoff d'Alençon pour jouer avec le vocabulaire animalier de la finance. Et on commence, comme la musique du Roi Lion l'indique, en Chine. Car c'est dans ce pays... c'est dans ce pays aux traditions millénaires que sont apparus récemment les Panda Bonds. Mais c'est quoi les Panda Bonds? Le premier emprunt écologique soutenu par le WWF? Une obligation émise en Chine par un pays étranger, en yuan? Ou une crypto-monnaie chinoise interdite depuis 2018?
Si. J'ai dit avant.
C'est allé vraiment très très vite.
Hein. Je crois que je suis devant.
C'est incroyable, ça, c'est incroyable.
Vous êtes fort.
C'est pas ça.
C'est pas ça normalement les Panda Bonds.
Ah bon ?
Non. C'est Moi, c'est pas ce que j'ai. Est-ce qu'on peut vérifier en régie, s'il vous plaît ? Est-ce que la personne. Il est sûr de lui, très bien. Le panda, c'est l'animal totem des Chinois, vous le savez, un trésor national. Pas étonnant que le trésor lui-même permette désormais à des entreprises étrangères de lever des fonds en émettant des obligations en yuan sur le marché chinois, d'où leur nom. Les Panda Bonds, rien à voir avec le panda bondage que nous évoquerons dans un autre quiz, mais pas le jour où on reçoit le patron de l'Arcom, évidemment, parce que le savoir est gai, mais pas suicidaire. En tout cas, dans la finance, on aime les animaux. Puisque lorsque les marchés connaissent un léger rebond, après une forte chute, avant de se casser la gueule à nouveau, on dit qu'il s'agit du phénomène bien connu de la scoliose de la girafe, de la fameuse traîne du flamant rose bourré ou du trépidant rebond du chat mort.
Ah, la girafe.
C'est.
Pour vous, c'est la scoliose de la girafe?
Ouais.
Vous voyez, elle a mal au cou, elle a bobo et...
Oui.
Oui, c'est ça.
Bah,
non, c'est une bonne réponse de Quentin, lui, évidemment. Réponse C. Réponse C, évidemment. Nous sommes en décembre 1985 à la bourse de Singapour, après un effondrement catastrophique des cours. Apparemment lié à la maladresse d'un stagiaire français qui aurait appuyé sur le mauvais bouton en voulant rattraper son donut, les marchés se redressent miraculeusement. Deux journalistes du Financial Times, Horace Venter et Wang Sulong, commenteront ainsi cette embellie de courte durée « Même un chat mort rebondit s'il tombe de haut », expression désormais courante dans le milieu de la finance. Comparaison scientifiquement validée par Cyril, qui après avoir été largué par Céline Tapineau à son retour de Singapour, kidnappera son chat et le larguera depuis le sommet du château d'eau de Ponto Combo.
Non,
ça rebondit pas, ça doit dépendre de la race du chat. Pour la prochaine question, parlons de Loucigalou, la start-up de tasse connectée de Quentin Lui. Un produit révolutionnaire qui fit l'objet d'un bel article dans les pages écho de l'Orne Hebdo, Quentin Lui, le fêlé de la tasse. Mais qui, faute d'avoir rencontré son public, finira au purgatoire des fausses bonnes idées avec les lunettes rétroviseurs et l'autotune. Désolé Quentin, Loucigalou ne deviendra jamais une licorne et encore moins une décacorne. Mais qu'est-ce qu'une décacorne ? Une start-up valorisée 10 milliards de dollars ? Un incubateur regroupant plus de 10 startups ou une startup dont l'action prend plus de 10% à sa mise sur le marché?
B.
Réponse A, Manon, une startup qui serait valorisée 10 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça représente, 10 milliards de dollars? C'est une bonne réponse, Manon.
Oh là là, c'est fort.
Et oui, je sais, Quentin.
Vous saviez ?
Je sais, Quentin. Je sais, Quentin, que pour votre oncle, Spencer Louis, c'est une paille. Mais justement, il est peut-être temps d'expliquer à nos auditeurs, et parmi eux surtout aux agents de Bercy, comment votre tonton a pu amasser une fortune telle qu'il possède aujourd'hui. Rappelons-le, un yacht plus long que celui de Jeff Bezos. Eh bien, tant pis pour lui, je prends de vitesse Mediapart et le Canard Enchaîné pour l'annoncer. Votre tonton Quentin est un mangeur de cygnes noirs. Ce qui signifie qu'il a bâti sa fortune en spéculant sur l'éclatement de la bulle Internet en 2001, misant sur la crise financière de 2008 ou en faisant tapis au moment du Covid.
B.
Je vous propose de bien réfléchir pour celle-ci.
Bah C. Alors.
C, là, ouais, moi j'aurais dit
Je vous propose de réfléchir
encore. Les trois.
Oh, les trois, ouais. Quentin, magnifique, oui. Un homme sans morale, mais est-ce surprenant de la part de lui ? Non. C'est l'occasion d'apprendre ce qu'est en finance un cygne noir, un phénomène violent et imprévisible qui impacte à la baisse les marchés boursiers, dont certains investisseurs s'emparent pour faire de la grosse moula. C'est ainsi que fin 2024, Quentin lui-même avait amassé un joli pactole en spéculant sur l'arrêt prématuré du Zoom Zoom Zinc. Séquence trop en avance sur son temps, bien lui en avait pris, et victoire, pour une fois, de Quentin lui.
Bah oui.
Dès qu'on parle de pépère,
ça parle de thunes.
Là, il y a du répondant.
Elle est là, là.
Vous êtes là.
Merci à tous.
Vous pouvez sortir vos 5 euros.
Faut-il céder à la mode des fines influenceurs ? L'experte de l'innovation financière et du numérique, Anne-Claire Benveau, est toujours avec nous. Anne-Claire, d'après l'IFOP, l'an dernier, près de un tiers des Français disaient avoir des lacunes en termes de connaissances financières basiques. Est-ce qu'on a un problème d'éducation financière en France ? Qui laisse le champ libre d'ailleurs à tous ces fines influenceurs.
Ouais, on a un gros problème parce qu'en fait, l'OCDE, toujours, qui mesure ce niveau d'éducation financière dans différents pays membres, nous dit qu'on est à peine au niveau de la moyenne. Donc, effectivement, c'est pas terrible et on progresse vraiment pas beaucoup ces dernières années. Donc, oui, il y a un souci. Il y a un souci encore plus chez les femmes et donc il faut qu'on le corrige rapidement maintenant.
Mais il faut qu'on corrige peut-être au niveau de l'école. Il y a un tabou français. Le tabou français autour de l'argent fait que peut-être l'éducation nationale n'a jamais investi ce champ de la Alors, finance. L'économie, oui, mais la finance, un peu moins.
C'est une super bonne question. Effectivement, dans notre baromètre SPAC avec Opinion Way, ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes nous demandent de l'éducation financière à l'école. Alors, ce que va nous dire la Banque de France, qui est l'autorité qui s'occupe de tout ça ici, c'est qu'il y en a déjà, parce que depuis quelques temps, on propose ce qu'on appelle un passeport éduc-fin, c'est-à-dire 2 heures d'initiation au budget, à l'économie, en classe de 4e. Mais bon, la réalité, c'est que 2 heures, c'est pas beaucoup pour voir tous ces sujets, c'est pas encore généralisé. Donc nous, concrètement, on travaille via notre association, justement, Ensemble pour l'éducation financière, à essayer de pousser un peu plus fort sur ce sujet et inciter à mettre ça à l'école plus sérieusement, quoi.
Et quand François Hollande disait « mon ennemi, c'est la finance », ça dit aussi quelque chose de notre rapport, nous, Français, à la finance.
Bah, c'est vrai qu'on parlait du conseiller tout à l'heure, il y a quand même une défiance assez généralisée vis-à-vis de la banque. Et en France, on n'aime pas forcément les gens qui... gagnent de l'argent ou détiennent l'argent. Et ça, c'est un problème, effectivement, de perception qu'il faut corriger. Et on voit que depuis la pandémie, quand même, et c'est un peu la bonne nouvelle, on a été tous collectivement assez rassurés sur le rôle de nos banques, notamment sur la mise en place du PGE, par exemple. Les banques, c'est quand même des acteurs sérieux qui nous sécurisent. Pardon, j'ai plus l'acronyme en tête, mais c'était le soutien financier aux entreprises mis en place au moment de la pandémie
pour éviter. Voilà,
merci beaucoup. Et donc nos banques ont été présentes à ce moment-là pour aider les entreprises. Et ça a changé vraiment aussi la perception des banques. Maintenant, quand on parlait des conseillers tout à l'heure, c'est vrai que les conseillers, pour certains d'entre eux, ils sont là pour placer des produits. C'est devenu des commerciaux. Donc ça pose vraiment problème à la fonction. Maintenant, vous allez trouver, si vous cherchez un petit peu, des organismes financiers, des banques qui revendiquent que leurs conseillers ne sont plus incentivés, ne sont pas commissionnés pour vous proposer des produits financiers.
Donc eux, on peut leur faire confiance.
Voilà, vous pouvez chercher de ce côté-là.
Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous, avec les cryptos, par exemple ? On sait que les Français épargnent énormément, près de 20% de leurs revenus. Est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ?
Alors, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, parce que je ne suis pas moi-même conseiller d'investissement, mais les crypto-actifs, pourquoi pas, on peut s'y intéresser, si on a les moyens. Donc, si on peut investir de l'argent dont on n'aura pas besoin rapidement, pourquoi pas. Il faut avoir un peu le cœur bien accroché quand même, parce qu'il y a une grosse volatilité. Volatilité, ça veut dire que c'est montagne russe, ça monte, ça descend assez souvent, en fonction de l'actualité économique et de ce que raconte Donald Trump, par exemple, pas mal ces derniers temps. Maintenant, pourquoi pas. Donc, voilà, mais je vous invite à regarder aussi du côté des actions, des ETF, on en a parlé, d'immobilier aussi. Enfin, il y a différentes choses à faire avant d'aller sur les cryptos, et surtout éviter le all-in sur les cryptos, parce que c'est vraiment risqué.
Ah oui, ça va faire tapis sur les cryptos, c'est dangereux. Vous listez tout ce qu'une mauvaise éducation en finance peut induire, mauvaise décision d'investissement, investissement perçu comme réservé à l'élite, voire une frustration liée à l'incompréhension des décisions économiques accompagnée du danger de la récupération et de la désinformation. C'est aussi un enjeu politique, finalement, l'éducation à la finance.
Oui, c'est politique, effectivement, parce qu'on a un phénomène de désinformation, de mauvaise compréhension des décisions économiques et financières. Si on n'est pas éduqué, on ne comprend pas, ou on peut plus facilement entre guillemets nous manipuler par rapport à ces sujets-là en s'appuyant sur le fait qu'on ne comprend pas bien ces notions d'inflation, de pouvoir d'achat et de décisions économiques associées au sujet. Donc c'est très important de s'informer pour avoir une opinion et un libre arbitre éclairé autour des questions politiques aussi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h44. Elle ne sait plus quoi faire de son argent. Ses poches débordent, littéralement. Manon Mariani, c'est l'heure de découvrir l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Je vous présente Tori Dunlap. Elle a 30 ans, elle est américaine et c'est l'une des voix les plus influentes de la finance féministe aujourd'hui. Tori se fait connaître en 2017 quand elle lance son blog où elle se lance un défi un peu fou, économiser 100 000 dollars avant ses 25 ans. À ce moment-là, elle est employée dans une boîte de marketing. 3 années plus tard, elle réussit son pari. Elle quitte alors son job et décide de fonder Her First 100K, une plateforme où elle va aider les femmes à maîtriser leurs finances avec des conseils et des techniques surtout, et une mentalité. Car pour elle, avoir le contrôle sur ses finances, c'est un acte féministe et un acte politique. Son déclic lui est venu quelques années plus tôt, en 2016. Elle est fraîchement diplômée et pleine d'ambition. Elle se rêve femme active à Seattle, café à la main, au poste dans le marketing. Mais la réalité la rattrape très vite quand elle subit des remarques sexistes de ses supérieurs et qu'elle fait face à des comportements abusifs. Problème, elle ne peut pas démissionner car elle a besoin d'argent. Et puis arrive l'élection de Donald Trump. Oui. Comme beaucoup, elle pensait célébrer la première présidente femme, donc c'est le choc et la colère. Et cette colère devient un moteur. Elle se plonge dans la finance, apprend à négocier son salaire, à épargner, à investir et à lancer un business. Et surtout, à ne plus jamais rester coincée dans un environnement toxique. Son argent devient en fait son arme d'émancipation. C'est donc à ce moment-là qu'elle crée sa plateforme. Grâce à elle, elle a pu créer une véritable communauté et les réseaux. Et sur ces réseaux, elle compte plus de 5 millions d'abonnés aujourd'hui. Elle a aussi sorti un livre et un podcast appelé Financial Feminist qui cartonne. Dans ses contenus, elle propose des actions concrètes. Épargner automatiquement, programmer un rendez-vous avec son argent chaque mois, voter avec son portefeuille. Elle rappelle aussi que 80% des problèmes financiers viennent du système, non pas d'un manque d'effort individuel, et que culpabiliser les femmes pour un latte à 5 $, et c'est un mensonge toxique. Aujourd'hui, grâce à tout ça, Tori Dunlap est devenue multimillionnaire, évidemment. Une situation qu'elle assume complètement et qu'elle revendique même pour donner un exemple aux autres femmes.
Merci Manon-Anne-Claire Benveau. Est-ce que le féminisme financier, vous y croyez ?
Alors, il y a clairement un mouvement, un phénomène aujourd'hui avec pas mal de femmes qui se sont investies sur cette question-là dans un ton un peu platif, victime parfois, mais qui sont là aussi pour aider celles qui n'ont pas ces connaissances à s'informer et à prendre leur argent en main, comme on dit. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Je pense à un podcast notamment qui est pas mal, qui s'appelle Argent parlons cash, les filles, qui a été créé assez récemment par une journaliste justement, et qui parle de finances autrement. Je vous invite à le suivre.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il est devenu en l'espace d'une saison la hantise des humoristes de cette émission qui se presse à mon bureau en hurlant « Y'en a marre de Courade, il nous pique des vannes, ça suffit maintenant !» C'est vrai que pour un type dont la fiche de poste était rédacteur en chef adjoint, on peut dire qu'il a bien dérivé. Ah ouais. Jusqu'à l'apothéose avant-hier quand il a carrément embarqué l'invité dans ses délires SM.
Corrigez-moi Bernard.
Corrigez-moi Bernard. Peut-être la punchline de trop pour nos humoristes. Là ça va trop loin. Pierre, en attendant une nouvelle saillie et vos débuts au Théâtre des Deux Ânes, résumez-nous d'abord ce qu'on s'est dit sur les fines influenceurs en une minute chrono, s'il vous plaît.
Et pour les plus anciens d'entre nous, j'ai enfin pu dire... Merci Bernard, je parlais pas de vous. Aujourd'hui on a parlé des fines influenceurs, des influenceurs qui vous aident à bien placer votre argent, autrement dit l'exact inverse de GC, tant sur le plan de l'argent que de l'influence. Notre invitée Anne-Claire Bonnevaux, experte de l'innovation financière et du numérique, nous a expliqué que l'audience de ce genre d'influenceurs était en croissance comme Quentin depuis 2020. La crise sanitaire a boosté notre intérêt pour la finance, les Français ont particulièrement épargné dans cette période puisqu'ils ne pouvaient plus dépenser leur argent dans les loisirs ou au resto. Ainsi tout le monde s'est senti obligé l'obligation de donner ses petits conseils, pas forcément bien avisés, sur Internet. Les publicités cachées pour tel ou tel placement, voire des arnaques, ont commencé à pulluler. Il faut dire que le terreau était favorable. Les Français ont une très mauvaise éducation financière. L'argent reste un tabou. C'est ce que déplore d'ailleurs notre invité qui a lancé une plateforme d'outils pédagogiques pour pallier cette lacune. Des banques commencent aussi à investir le terrain en se rapprochant de créateurs de contenu pour toucher un autre public. Des conseillers professionnels en placement financier se lancent également sur ce créneau. Comme quoi, il y avait clairement un vide à combler. Voilà, je vous laisse sur cette transition avec la chronique suivante.
Merci Pierre, merci de m'offrir en plus la transition gratuitement. Vraiment, comme
il,
ça.
Il a essayé d'être subtil.
Encore, mais 7 vannes, 3 infos. Je ne sais pas si c'est le bon ratio, Pierre. On s'interrogera pour la saison prochaine. Et justement, on retrouve maintenant GC, qui visiblement est devenu un expert en investissement.
Mais oui, bonjour à tous, sauf aux pauvres. Hein, là, on va parler bourse. Oui, et pas celle qui était sur mon visage hier soir. Bah oui. Vraie info. Il paraît que toucher des testis de taureau, ça rend riche. Moi qui perdais mon temps sur celle de Pierre Courade. Mais là, on va parler blockchain. On va parler en cas. Hein. Alors, vous faites pas de mal pour rien. Éteignez la radio, les smicards. Voilà, allez bouffer un cordon bleu, ça vous occupera. Ouais, ça va. Faites pas les choquer autour de la table. Hein. Pardon, Mathieu, rappelle-moi, il est à combien le RSA?
Oui,
c'est bien ce que je pensais. Hein. Tout ce qui vous intéresse autour de cette table, c'est défiscaliser vos droits d'auteur. Hein, donc faites pas les proches du peuple. Voilà, sauf Quentin, c'est vrai, qui a pas de droits d'auteur. Pas déconner non plus. Un micro-trottoir, c'est pas de l'art, Quentin. C'est du harcèlement de rue. Moi, depuis que j'ai dit bonjour, écoutez, parce que moi, depuis que j'ai dit bonjour, j'ai gagné 10K, déjà. Voilà, ça fait moins les malines, là, hein, bande de losers. Ouais, ouais. Bon, c'est 10 000 francs CFA, mais ouais, mon coach en crypto est au Sénégal. Non, mais il est super. Je suis tombé sur une de ses vidéos hier, il est trop beau, ça m'a donné grave confiance. Ouais, en plus, il me drague, j'adore. Ouais. Au début, il pensait que j'étais une meuf, ça lui allait aussi. Non, mais il est grave déconstruit. Et il m'a demandé mon RIB en me disant qu'il m'aimait. Non. Franchement, super service client. Quand je vois que mon conseiller général, en 15 ans, m'a jamais envoyé aucun nude, je peux vous dire, de toute façon, c'est très simple, je l'ai appelé celui-là. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis qui pour vous, en fait, monsieur Roger? Il m'a répondu, quelqu'un a découvert, je l'ai bloqué. Hein. Et j'ai tout raconté à mon coach. Et il m'a dit, t'inquiète, la richesse, c'est un mindset. Grâce à mon programme, tu vas finir millionnaire, suffit juste d'ouvrir ce compte Western Union. Bon, là, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu chelou, parce que, en fait, à la fin, il a pas dit bébé. Du coup, bah, je l'ai appelé lui aussi, en fait. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, Babacar? Et là, en fait, il m'a rassuré, en me proposant d'ouvrir un compte commun pour me prouver son amour. Ah, oui, j'ai trouvé ça trop mimes. J'étais là, oh, le mariage! Alors, non, pardon, je vois vos têtes là, ça vous crèverait le cul de vous réjouir pour moi en fait, pour mon bonheur. Non mais ouais, c'est ça, faites pas les faux culs. Vous savez ce qu'il dit mon coach en investissement de vous, de toute façon, vous êtes des petits fonctionnaires, voilà, aux pensées limitantes, hein, c'est ça qu'il dit. Voilà, hein, faudrait peut-être penser à reprogrammer son rapport à l'abondance. Voilà. Hein, bah pardon, vous pensez que j'allais rester ici pour 170 balles semaine, hein? Pardon, mais moi je rewrite mon narratif en fait. Voilà, vous faites quoi vous là, à part glousser sur les chroniques de la mère Breuer, hein? Ouais, ça fait quoi? Vous pensez que c'est ça? Comme ça, vous allez devenir des alphas? Je crois pas, non. Hein. Faudrait peut-être arrêter de chouiner hein, quand personne aura tokenisé sur sa valeur blockchain. Voilà. Pardon, je fais un petit audit intérieur, vous m'en voudrez pas. Hein, mais là, je pense qu'il faut arrêter de trader son futur contre un petit confort court terme. Voilà, je m'arrêterai ici parce que j'ai utilisé tout mon vocabulaire crypto. Oui, j'en suis qu'à l'étape 1 de mon stage. Il y en a 999, m'a dit mon coach. Bah ouais. Mais non, mais je suis trop content parce que l'étape 2, je la connais, c'est les NFT, comme j'avais voté pour eux aux dernières élections. Après, je savais pas que la gauche était dans les cryptos. Pour moi, c'était plutôt un truc de droite. On a quand même rarement vu un influenceur finance en Sarouel. Hein, ils ont plutôt d'habitude le même look que Pierre Courade. À savoir quelqu'un qui passe ses week-ends au Puy du Fou. Oh. Oui, bah, quand il n'est pas trop occupé à la boule à baiser ses cousins.
Oh non.
Après, bah, bien sûr que oui, il m'a envoyé des balles, moi aussi. Après, moi, mon coach, il n'est pas comme ça. Mon coach, il a des petites chemises qui lui vont trop bien. Genre des petites chemises sur mesure. Je sais qu'elles sont sur mesure parce que c'est moi qui les paye. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est comme ça qu'on passe les paliers du stage. Un palier, un vêtement cher. Ouais. Après, en même temps, il a raison, hein, parce qu'à force de pas se respecter, on finit habillé comme Quentin. Qu'est-ce que c'est que ce pull, pardon.
Oh, mais... non.
Pardon, c'est lui qui m'écrit, c'est mon coach. Il est en prison. C'est dingue comme le système est jaloux des gens qui réussissent. Quand même. Je suis sûr, c'est cette Courade, elle nous a dénoncé. Bon, faut que j'aille payer sa caution. J'espère qu'ils acceptent les bitcoins.
Merci beaucoup, GC. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et sur scène.
Non.
On retrouve.
On va changer de pull, toi.
On verra. On décidera entre nous tranquillement.
Oui.
On fera un comité. on décidera. On votera main levée pour
moi, c'est oui.
Vous, c'est vous ? Oui, moi, c'est oui aussi. Et sur scène, on vous retrouve, bon, je l'ai dit 250 fois, mais ma bouche ne s'en lasse pas, aux Zèbres de Belleville en septembre et en tournée partout en France. Toutes les infos sur icigc.com. Merci Anne-Claire Benveau de nous avoir éclairé sur ce phénomène des fines influenceurs. Je rappelle votre cabinet de conseil BNVLT et la plateforme SPAC qui développe des programmes de sensibilisation pour favoriser une meilleure éducation financière. Il y a aussi ce livre, Petit manuel d'éducation financière. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous pour mon invitation.
Zoom Zoom Zen.